Donc, où elle va cette eau? Ben forcément dans les océans, donc une hausse du niveau marin. Je spéculerai pas, n'étant pas vraiment spécialiste, sur les valeurs prévues dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans. En tout cas, le niveau marin monte, on le verra tout à l'heure, y compris pas loin de chez nous, et le couvert neigeux également diminue aussi. Un petit exemple très emblématique de cette conséquence de la hausse du niveau marin, c'est la variation du trait de côte en Alaska. On a ici un tracé rouge qui nous montre l'état actuel de la position de la mer. Ici, on a un petit village, Shishmaref, commence à être très connu puisque c'est celui qui a donné lieu aux premiers réfugiés climatiques. C'est un concept, ça n'existait pas jusque-là. On a maintenant des gens qui sont obligés de partir de chez eux pour des raisons climatiques. Pourquoi? Ben, tout simplement, regardez, leurs maisons sont pratiquement à la mer. En fait, dans ces régions glaciaires, on a ce qu'on appelle le permafrost, le pergélisol, c'est-à-dire une couche de glace qui est dans le sol. En fait, le sol est toujours gelé, et cette couche de glace fond, d'autant plus que le niveau marin monte, par conséquent, les sols deviennent extrêmement instables. La mer arrive, et elle a donc la capacité, par les vagues, de grignoter ce trait de côte. Pas besoin d'aller si loin. Le glacier du Rhône, le Rhône n'est pas loin de chez nous, le glacier du Rhône, pardon, en 1850, en 1985, c'est conséquent, vu d'en haut, vers 1910 et vers 2000. À Chamonix, le glacier de l'Argentière, à la fin du XVIIIe siècle. Alors attention, on sortait d'un petit âge glaciaire là, il était un peu plus gros que ce qu'il était en moyenne. Mais quand même, au début du XXe siècle, à peu près aujourd'hui, le point de vue est légèrement différent, mais il a très significativement réduit. Cette glace qui a fondu, où va-t-elle? Elle va dans les océans. Imaginons. Ce n'est pas une image d'une très haute pertinence scientifique, ça vient de Google Maps, mais quand même, ça donne une illustration, il suffit de connaître un peu les altitudes et on s'en rend vite compte. Imaginons que notre région, ici on est à Avignon, la Camargue, le Grand Delta du Rhône, imaginons 1 mètre d'eau supplémentaire seulement, on pourra bientôt aller se baigner au sud des Alpilles. Moriès, voilà. Et si vous mettez 2 mètres d'eau, on pourra aller se baigner à Beaucaire. C'est peut-être pour dans longtemps. C'est peut-être pour dans longtemps. Mais si on regarde l'évolution du trait de côte 2000-2004, sur cette petite période de temps-là, on constate que un certain nombre d'endroits qui sont ici notés en rouge ont bougé de 5 à 15 mètres pendant ces 4 ans-là, pendant ces 4 années-là. C'est un phénomène complexe, il peut y avoir d'autres choses qui jouent, la charge transportée par le Rhône, etc. Mais quand même, ça bouge très significativement et très vite. Deuxième grande crise que je tenais à évoquer, la crise pétrolière. Pourquoi? Pour une raison simple. Le pétrole, par son transport, sa transformation et sa combustion, est l'un des principaux facteurs d'émission de CO2, et par conséquent, l'un des principaux facteurs de réchauffement climatique global. C'est ce qu'on voit ici. Hop là, pardon. C'est ce qu'on voit ici. La courbe du pétrole est en bleu. Vous voyez qu'elle contribue très fortement aux émissions de carbone fossile dans l'atmosphère. Il pose également d'autres problèmes moins connus. Oui, j'aime bien cette image-là, j'aime bien les images un peu réalistes, un peu choc, mais réalistes. Quand le baril de brut vaudra 200 dollars, ce monde qui vient, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On verra tout à l'heure qu'on était à 145 dollars le baril au mois de juillet 2007, juste avant la crise économique. D'où vient ce problème? On considère que le pétrole, il y a un stock fini, une quantité finie qui nous a été donnée, entre guillemets, Et cette quantité étant finie, forcément, au plus on en consomme, au moins il y en a. Il y a une valeur un peu limite, hein, c'est quand on est arrivé au maximum de la production, et à partir de là, ben, on va commencer à descendre et on va attaquer en fait la partie restante, hein, plus de la moitié. Au début du siècle, jusqu'à nos jours, cette exploitation a été relativement facile. On a exploité les pétroles pas très profonds, hein, relativement fluides, etc. Et puis maintenant, on attaque une période beaucoup plus difficile. Ce sommet de courbe, c'est ce qu'on appelle le peak oil. Hein, c'est une valeur limite qui départage vraiment le temps en deux, à l'avant, hein, l'ère du pétrole, et l'après, c'est-à-dire le passage à l'ère de l'après-pétrole. Cette courbe, elle est peut-être un peu théorique, mais si on la compare à la courbe, pardon, chaque fois je me trompe, à la courbe ci-dessous, hein, qui est la courbe rouge, courbe théorique, à la courbe de production de la Norvège, on constate que les petits points bleus, qui correspondent aux valeurs réelles d'extraction, s'ajustent parfaitement bien. Donc on a vraiment amorcé une décrue. Si on généralise un peu, qu'on regarde à l'échelle du monde comment cela s'organise, hein, on voit que cette valeur limite de peak oil, elle se situe sur ce document 2010, ça varie, 5 ans, 10 ans près, qu'importe. Hein, on arrive là aussi à une réalité, hein, à une situation de bifurcation, et il va falloir en tenir compte. Là, le graphique en bas, c'est pour la société, c'est basé notamment sur la société BP, hein. On voit que maintenant, la production, hein, commence à être nettement décalée des découvertes. Jusqu'avant, on pouvait toujours espérer faire des découvertes. Ces découvertes se réduisent et donc la production exploite au maximum les stocks présents. Différents scénarios, hein, qui nous racontent à quelques variations près ce que ça pourrait être. Ce qui compte là-dessus, c'est simplement que de toute façon, qu'on soit un pétrolier, qu'on soit un scientifique, qu'on soit un observateur indépendant, qu'on soit l'Agence internationale de l'énergie, tout le monde est d'accord, on va vers la décrue. Bientôt, plus de pétrole. Hein. 10, 20, 40, 100 ans, je ne sais pas. Parallèlement à ça, hein, évidemment, plus c'est rare, plus c'est cher. On a une hausse du prix. On a atteint ce maximum de $145 il n'y a pas si longtemps. Méfions-nous. C'est pas parce qu'on a une décrue, hein, du prix actuel, c'est pas parce que le prix de l'essence à la pompe a nettement baissé ces derniers temps qu'il faut se rassurer. C'est simplement une conséquence de la crise. Il y a moins de demandes, donc c'est moins cher. Il ne faudrait pas se rassurer derrière cette petite évolution conjoncturelle. Parce que de toute façon, la demande monte, elle monte très significativement, elle monte parce que le monde se modernise, s'occidentalise, on produit de plus en plus de biens de consommation, on se déplace de plus en plus, on est à l'heure de la mondialisation, et en plus, on a évidemment des grands pays que l'on appelle émergents, qui arrivent sur la scène économique internationale de manière très dominante, l'Inde et la Chine notamment, qui ont des besoins absolument colossaux en énergie. Vous voyez ici que la Chine ne se suffit plus, elle n'arrive plus à trouver chez elle ce dont elle a besoin, et donc forcément, elle rentre sur la scène internationale en quête de ressources. Donc une ressource de plus en plus rare, de plus en plus chère, de plus en plus dangereuse à utiliser et difficile à obtenir. Je n'ai pas le temps de vous parler des conflits géopolitiques, du Moyen-Orient, des tensions, des guerres d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan, etc., etc. Hein, mais vous voyez à peu près de quoi je veux parler. De toute façon, le pétrole est un problème, hein, et on n'aura pas le choix, qu'on soit écolo ou pas, on n'aura pas le choix. Il va falloir évoluer vers une quête d'énergie alternative, d'énergie renouvelable, mais aussi vers la minimisation de nos consommations. Parallèlement, hein, mais tout est lié, une crise économique globale que vous connaissez, ça c'était en 1987, hein, le premier krach post-pétrolier, premier krach d'une nouvelle génération. Ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, l'été 2007, la crise des subprimes, hein, la credit crunch, la crise du crédit, la crise des prêts hypothécaires, qui dégénère et qui se régénéralise en ce qu'on appelle une crise systémique globale, une crise qui touche tous les secteurs de l'économie, le financier, le bancaire, le monétaire. En 2008, c'était tout récent, c'était au mois de septembre. quelques images, on passe un peu vite. Toujours le spectre de 1929, c'est différent, hein, mais les conséquences n'en seront pas moins lourdes. J'aime bien cette image-là qui est juste là pour me permettre de parler un peu, parce que c'est une image relative à la crise économique. All you need is cash, hein, c'est pas love comme dans la chanson des Beatles, mais c'est l'image de cet homme qui rampe sur ce sol complètement desséché. Hein. On voit quand même là aussi une certaine analogie avec le réchauffement climatique et avec cette crise écologique globale. Donc cette crise économique, d'où elle vient, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est une crise de surconsommation, tout le monde veut consommer, tout le monde veut consommer plus, et donc comme on n'a pas les moyens de consommer, on fait des crédits de plus en plus à risque, les banquiers ont joué ce jeu-là, les institutions financières aussi, etc. Et puis on en est arrivé à la situation actuelle, mais sachant qu'en voulant ces biens de consommation, en voulant posséder, en voulant avoir toujours plus, hein, on fait quoi? Mais on fait tourner la machine industrielle, on fait tourner la machine de production, on fait tourner le transport, on fait tourner un ancien modèle. Hein, et là, il y a un petit dessin un peu symbolique. C'est les Big Three, hein, General Motors, Ford et c'est pas Chevrolet, c'est je sais plus, enfin, Chrysler bien sûr. Hein, les trois grands qui seront là tout petits en train de ramper devant le Congrès américain pour demander au secours, hein, sauvez-nous, puisque c'est la ruine. Et si Obama n'avait pas décidé de les sauver, le dernier symbole de l'industrie états-unienne aurait disparu. Et c'est pas dit que certains pans ne disparaissent pas de toute façon. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un peu l'archétype. Hein, quand on fabrique des voitures qui ont des durites grosses comme le bras, hein, c'est une logique de consommation à outrance. Il n'y a pas besoin de faire des complications. On a besoin, on consomme. Mais ça a des conséquences. Conséquences écologiques, on l'a vu. Hein, conséquences économiques aussi. Donc cette crise du crédit est une crise de la surconsommation. Elle invalide un peu le modèle qui a eu cours, hein, au XXe siècle et avant. On pensait, hein, que la fin de l'histoire était arrivée avec l'effondrement du mur de Berlin, le triomphe du capitalisme sur le communisme. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein. De toute façon, cette production de biens de consommation est très vorace en énergie fossile et accélère fortement le changement climatique. Donc ces trois crises sont très intimement liées, hein, et nous appellent à changer de modèle, à changer de référent, à changer de mode de vie. Alors, on va voir qu'il y a une hypothèse qui est un peu à la mode en ce moment, c'est ce qu'on appelle le New Deal écologique. Pour l'instant, rien n'est fait, hein, mais je trouve ça intéressant. On va voir un peu ce que c'est. Le New Deal écologique, c'est très simple. Pour sortir de la crise de 1929, le président Franklin Delano Roosevelt avait créé le New Deal, une politique de grands travaux très massive à l'échelle de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, notamment l'électrification, l'amélioration, la création d'un réseau routier, etc. Par ces grands travaux, il a considérablement contribué à faire sortir le pays de la crise et un peu aussi l'économie mondiale. Vite, une relance écolo, hein, c'est quelque chose qui traîne dans la presse depuis 2-3 ans déjà, hein, suite au mouvement difficile de l'économie actuelle. On espérait un peu que ça serait l'occasion d'évoluer vers un autre modèle, vers d'autres types d'industries plus vertes. Hein. Tout ça, c'est journalistique, c'est des beaux discours, des belles paroles, mais là, le PNUS, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, viennent de formaliser ça de manière très officielle. Le directeur exécutif du PNUL, M. Achim Steiner, secrétaire général adjoint des Nations Unies, nous propose un New Deal écologique mondial, investir dans l'environnement, une occasion historique pour relancer l'économie et la création d'emplois au XXIe siècle. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est le constat que M. Steiner fait. Bon, les échecs du marché, etc. Mais la consommation, hein, de ressources naturelles ajoutée à une dépendance excessive sur les énergies fossiles limitées, souvent subventionnées. Les énormes avantages économiques et sociaux et environnementaux découleront probablement du combat contre les changements climatiques et du réinvestissement dans les infrastructures naturelles. Voilà. Bref, il y a une opportunité. Les décideurs au plus haut niveau, hein, les penseurs du monde de demain en ont conscience. Ça commence à être officialisé. C'est à mon avis très intéressant. C'est tellement officialisé que ça en devient un enjeu pour notre président Sarkozy, hein, qui n'hésite pas à utiliser les termes de plan Marshall, en référence à ce plan qui avait été proposé par les États-Unis d'Amérique pour sortir la France de l'ornière après la Seconde Guerre mondiale. Il n'hésite pas à employer les termes non plus de New Deal écologique, hein, pour le Grenelle de l'environnement. Voilà, donc ça c'est une petite revue de presse. Alors évidemment, le Grenelle de l'environnement, vous avez vu que récemment, il avait été un peu maltraité, que parce qu'on est en crise, ça ne sera pas autant que prévu, pas aussi bien que prévu. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se lancer. Ce qui compte, c'est de déceler des tendances, des choses qui sont en train de se mettre en place. Le Grenelle de l'environnement, c'est une initiative nationale en France. Hein, c'est la reconnaissance officielle qu'il faut aller vers du durable, de l'écologique, du renouvelable, etc. Donc ce sont des choses qui commencent à exister. Une autre façon de déceler un peu la tendance, hein, le sens de l'évolution, c'est de tout simplement de s'amuser sur le moteur de recherche Google. Je me suis amusé à compter les nombres d'occurrences. New Deal écologique, 48 000. Bon, ça c'était franco-français. Par contre, dès qu'on tape Environmental New Deal, on tombe à 441 millions d'occurrences. Si on veut comparer à des mots d'actualité à la mode, le mot war, guerre, 760 millions d'occurrences, dollars, 188 millions, sida, 157 millions, crise financière, 55 millions. Vous voyez qu'en tout cas sur Internet, il y a tout un tas de gens qui se sentent concernés et qui sont en train de s'agiter autour de cette idée de New Deal écologique. Donc c'est peut-être pas encore une réalité, peut-être que les États n'auront pas la possibilité de mettre ça en place pour des raisons économiques, mais ce qui compte, c'est qu'un processus est engagé. Ce processus est engagé parce qu'il y a une prise de conscience collective. Barack Obama, l'espoir, bon, ce sera d'abord le président des États-Unis avant d'être le président du monde, hein, mais là, vous voyez qu'il a été grimé par le magazine Time en Franklin Roosevelt, hein, dans les années 30, avec, encore une fois, cette évocation au New Deal. Mais en attendant le New Deal, hein, on va voir un peu ce qu'il existe, ce qu'il est possible de faire. Les énergies renouvelables, voilà un peu le cœur du sujet. Donc vous en avez un peu parlé, je crois, avec vos professeurs. Je vais passer assez vite, on y reviendra dans les questions si nécessaire. Des énergies donc renouvelables, c'est-à-dire qui ne portent pas préjudice, hein, aux générations futures, qui ne sont pas en stock limité. Par exemple, la géothermie, le solaire sous toutes ses formes, l'hydraulique sous toutes ses formes, hein, marée moteur, etc. Le végétal, ici la canne à sucre pour les fabrications d'ester, hein, les éoliennes, les barrages hydroélectriques, voilà. Alors attention, les énergies renouvelables, c'est pas si simple. Hein. Même si c'est un postulat qu'on considère un peu a priori comme étant acquis, toutes les énergies renouvelables ne sont pas forcément vertes. Une énergie renouvelable, c'est en théorie une énergie qui ne rejette pas de toxiques, hein, dans l'atmosphère. Par exemple, le bois, vous coupez du bois, hein, pour la filière bois-énergie, vous faites brûler ce bois pour le chauffage, pour la génération d'énergie thermique. Si votre poêle à bois, votre chaudière est de bonne conception, en théorie, vous ne rejetterez pas plus dans l'atmosphère de CO2 que si vous aviez laissé pourrir le bois sur pied dans la forêt, hein, par exemple. On va voir que ce n'est pas le cas pour toutes les énergies. Où en sommes-nous en France ? Que représentent les énergies renouvelables ? Alors ici, ce sont des valeurs absolues. Bon, on peut déduire là que la part en pourcentage n'est pas quand même pas énorme. Méfions-nous, on est en France, hein, l'électricité est très massivement nucléaire, ça minimise la part du pétrole, c'est bien pire dans d'autres régions du monde. Ces énergies renouvelables, massivement, hein, composées de bois et déchets de bois, d'hydraulique, hein, le système hydroélectrique en France est assez largement exploité, le potentiel est pratiquement épuisé. Hein. Autre, alors là il y a beaucoup de choses, le solaire, l'éolien, les résidus de récolte, la géothermie, les pompes à chaleur, les biogaz et les biocarburants. L'évolution récente, le bois, hein, l'hydraulique, bon, ça évolue pas tant que ça. Par contre, hein, c'est dans le autre, hein, qu'on commence à sentir une courbe ascendante, même si elle reste très, très timide, très modeste pour l'instant. L'énergie éolienne, vous voyez par exemple, hein, pour faire un petit zoom sur cette énergie-là seulement, vous voyez qu'elle croît très vite, hein, de manière exponentielle, mais il faut quand même penser que ça reste une part, hein, très 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 réduite en proportion de l'ensemble des énergies utilisées. De notre côté, la France a un très gros potentiel par sa façade maritime, hein, qui permet donc d'exploiter des situations géographiques régulièrement soumises à des vents, hein, ou la vallée du Rhône aussi. Hein, mais il ne faut pas rêver, avec les énergies renouvelables, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arriver à faire des changements majeurs en termes de part dans l'ensemble des énergies utilisées, y compris en regard des énergies fossiles. Si vous vouliez absolument rouler avec du colza, hein, de bioéthanol à base de colza, la totalité de la surface agricole française actuellement exploitée et potentiellement exploitable n'y suffirait pas du tout. De la même manière, on pourrait recouvrir la France d'éoliennes, ça ne suffirait pas. Hein. Donc, on voit de suite qu'il faut rentrer un peu dans une relativisation, hein, qu'il faut évoluer pour minimiser une part d'énergie fossile, hein, qui sont génératrices de CO2, mais ça nécessite une réflexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus large. En Europe, alors vous voyez qu'on a une très forte représentation de la biomasse, hein, ici c'est en pourcentage, il y a surtout du vert, hein, et de l'hydraulique. L'éolien prend, notamment dans les pays du Nord, le solaire reste très modeste. Et la géothermie, évidemment, ça dépend, hein, de l'organisation physique, hein, de la Terre, de la présence de proximité de volcans, hein, sources chaudes, etc. Néanmoins, hein, malgré, si vous voulez, cet aspect finalement assez timide des énergies renouvelables, il y a quand même quelques excellentes réussites qui existent en Europe. La Suède, hein, une société qui est en train de devenir sans pétrole, qui a renoncé aux énergies fossiles, avec des résultats assez probants pour les industries qui ont massivement investi dans leur virage vers le renouvelable, vers le durable. Ici, l'exemple de la ville de, alors, je ne sais pas comment on prononce, mais on va dire à la française, de Vaxjau, hein, qui est une ville écologique modèle qui vient de recevoir le prix européen de la ville verte, qui a, elle, quand même réussi à réduire significativement la part de ses énergies fossiles, hein, notamment dans les transports, mais surtout dans la chaleur, hein, dans la chaleur à usage chauffage, hein, domestique. Par exemple, un train qui circule au biogaz, hein, c'est un cas assez rare en Europe, mais c'est possible. Donc voilà, une ville très, très verte où toute la population a joué le jeu, les pouvoirs locaux ont joué le jeu, ont massivement investi financièrement, mais aussi, on va dire, un peu idéologiquement. C'est quand même un engagement, c'est assez périlleux. Ici, vous avez une image d'une usine, hein, de production d'énergie à partir de déchets végétaux. La ville de Fribourg en Allemagne, qui, elle, s'est orientée vers le solaire, vers le photovoltaïque, hein, l'utilisation de panneaux solaires pour la production d'électricité. On retrouve un peu partout, hein, sur les façades, sur les toits des bâtiments en ville. C'est là que se trouve l'une des principales usines européennes de fabrication de panneaux photovoltaïques. Alors évidemment, dans ces cas-là, ce qui compte, c'est de voir qu'on a tout un partenariat qui est fait, hein, entre la recherche-action, l'industrie, les pouvoirs publics, les pouvoirs régionaux, les pouvoirs municipaux. Il y a toute une dynamique collective qui doit être créée pour arriver à ce que ces choses-là puissent avoir un impact. Hein, si on est un peu isolé, c'est beaucoup plus difficile. Restons critiques quand même, hein, tout n'est pas vert dans le renouvelable. Vous connaissez la problématique des biocarburants, surtout qu'on vient de connaître, pas en France heureusement, mais dans les pays dits du Sud, une crise alimentaire extrêmement sévère. Les biocarburants, le problème, c'est que l'éthanol n'est pas forcément écolo. Il a déjà contribué à une augmentation très significative des prix alimentaires ces dernières années. puisque forcément la culture du maïs principalement, mais aussi du colza et de la canne à sucre sont entrées en concurrence avec l'alimentation. Et donc, il y a des choix difficiles à faire. Alors, on ne sait pas trop, là, les informations commencent à arriver. C'est un peu difficile d'y voir clair. Le président Lula da Silva, président du Brésil, affirme que au Brésil, qui est massivement utilisateur de diester, de bioéthanol, pour sa consommation d'essence dans les véhicules privés, affirme qu'ils utilisent des parcelles qui n'étaient initialement pas utilisées par l'agriculture à usage alimentaire, qu'ils ne progressent pas dans la forêt amazonienne, hein, qu'ils ne construisent pas de fronts pionniers, qu'ils ne déforestent pas au profit de ces ressources-là, et qu'il faut bien faire la différence entre le maïs, qui lui est directement en concurrence avec l'alimentaire, et la canne à sucre qui est moins directement impliquée. Quoi qu'il en soit, il importe de rester méfiant et de rester critique, puisque de toute façon, les crises alimentaires récentes sont une réalité. Et encore une fois, je l'ai dit, les quantités qu'il faudrait réellement pour compenser totalement le pétrole en matière de carburant à usage ordinaire seraient absolument colossales et généreraient des problèmes écologiques tout autant importants que ceux que l'on connaît actuellement. Sans compter les problèmes sociaux, les coûts de production. Où est-ce que ce n'est pas cher? Ben forcément, ce n'est pas cher de produire dans les pays du Sud, une main-d'œuvre sous-payée, une main-d'œuvre pas toujours très bien traitée. Donc là aussi, des problèmes éthiques, des problèmes humains, des problèmes écologiques. Donc il faut avoir une conception assez large quand même du développement durable et essayer de voir sous toutes les facettes. De notre côté, peut-être pas lieu de trop critiquer pour l'instant. Il faut plutôt saluer les initiatives et rester attentif. On en est à la mise en place d'un nouveau système. On est en train tous de découvrir un petit peu. Bon, faut pas trop nuancer non plus. Il y a quand même des gros industriels américains qui se sont installés en Amazonie, qui ont créé leur propre port. On voit qu'il y a quand même du lourd derrière. Il y a des investissements, il y a de l'argent. C'est du très gros capital qui se met en place. Les pétroliers ont bien compris qu'il était temps de réorienter aussi leur fusil d'épaule. Voilà, il va falloir réduire votre consommation. C'est pas nous qui devons réduire notre consommation d'essence, ce sont les affamés des pays du Sud qui doivent réduire leur consommation pour que nous puissions rouler tranquillement. Alors, sur ces énergies renouvelables, l'information est accessible à tous. Je vous ai juste pointé deux sites internet, energierenouvelable.org, énergie verte online. Je ne fais pas spécialement de pub, mais j'ai trouvé pas mal d'infos là-dessus. Parce que comme je ne peux pas trop vous raconter grand-chose en 45 minutes, ceux qui sont intéressés, je crois que vous avez un peu des dossiers à faire, vous verrez que sur Internet, il y a vraiment une information tout à fait ouverte, tout à fait libre pour travailler, réfléchir sur ces questions-là. Quatrième partie maintenant, les économies d'énergie, parce que finalement, les énergies renouvelables, c'est un très noble projet, mais c'est quand même assez lourd. Ça dépend beaucoup des États, des pouvoirs publics, des volontés qui doivent se mettre en place. Par contre, les économies d'énergie, c'est à la portée de tout un chacun, pardon, ça peut se faire au quotidien. Et c'est peut-être dans cette problématique globale de réduction de notre consommation en pétrole, de réduction de nos émissions en CO2, c'est peut-être par là qu'il faut commencer aussi, pas être trop passif, pas être trop attentiste, ne pas croire que ça va tomber tout cuit depuis le sommet de l'État ou depuis les industriels. On peut aussi commencer à se prendre en charge nous-mêmes et c'est ainsi qu'on fabrique, qu'on forme une opinion publique par des gestes, par des actions. Pourquoi General Motors se casse la figure aux États-Unis, parce que Toyota l'a détrôné. Et bien sûr, il l'a détrôné parce qu'il traite moins bien ses ouvriers, etc. Les fonds de pension sont moins copiés chez Toyota que chez General Motors, mais aussi parce que Toyota propose des petites voitures, pas écologiques, mais de très faible consommation, alors que chez General Motors, on était encore au V6 et au V8, de moteurs de camion pour aller au travail. Alors, des réductions possibles, il y en a. Réduction possible des émissions de CO2, il y en a de nombreuses. Vous voyez la part des biocarburants, le nucléaire et les énergies renouvelables, Bon, les puits, le captage artificiel du CO2 et son stockage souterrain ou dans les grands fonds marins. Mais il y a aussi l'amélioration du rendement énergétique, hein, c'est-à-dire que plus on évolue dans la technique, moins on consomme d'énergie pour produire une force, un travail équivalent. Mais ça ne suffit pas. Hein, ça ne suffit pas d'attendre après que des grandes mécaniques se mettent en place, hein, parce que nous, on n'a pas vraiment prise sur tout ça. Par contre, si on y regarde d'un peu plus près, hein, 50% des émissions de CO2 sont le fait de particuliers, directement ou indirectement. Hein, éclairage, chauffage, déchets, utilisation de véhicules électroménagers. Pour un ménage français moyen, c'est 7,8 tonnes de CO2 par an. Et la fabrication, le transport des produits et services consommés, de leur côté, s'élève à 8,6 tonnes annuelles, ce qui nous donne donc un total par ménage de 16 tonnes de CO2 par an. Donc voilà, ça fait quand même une quantité énorme. Et on voit vite que une forte part est consacrée au déplacement, hein, 25%, au chauffage, 15%. Hein. Sur ces choses-là, on a prise, on peut agir hein, dans nos foyers, dans nos maisons, mais aussi au travail. Si on regarde par secteur d'activité, encore une fois, le transport est très largement dominant, hein, avec 26%, bon, l'agriculture aussi. Pas très lisible, mais ça reprend en couleur les mêmes informations. Si on regarde globalement par secteur, hein, pour l'ensemble France, 13% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est plus global que le carbone, non, c'est CO2, sont liés au logement, 14% au transport par la route des particuliers, avec les 12 autres transports, donc on retrouve à peu près les 26% de tout à l'heure, 20% dans l'agriculture, 18% dans l'industrie. Alors là, c'est assez amusant, hein, parce qu'on va voir là-dessus des choses très simples. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait économiser en équivalent, alors c'est des millions de tonnes équivalent CO2, qu'est-ce qu'on pourrait économiser chacun par nos gestes quotidiens? Si on réduisait seulement 10% de la distance parcourue dans l'année en voiture hein, ou en bus, 8,8 millions de tonnes équivalent carbone. Si on arrive à se procurer une voiture qui émet moins de 120 grammes de CO2, je vous rappelle qu'en France, la moyenne des véhicules neufs produits, elle est à 150. La moyenne des véhicules circulants, c'est dur d'avoir l'information, mais elle doit être très 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 élevée, bien au-delà de 180. Hein. 120, ça reste très bas. Hein. On arriverait à économiser 0,8. Si simplement on conduit un petit peu plus lentement que d'habitude, qu'on respecte les limitations de vitesse, hein, qu'on a une conduite un peu plus souple, on gagnerait encore 2,8 millions de tonnes équivalent carbone. Hein. Si on baissait de seulement 2 degrés la température intérieure en hiver, on gagnerait 7,7 millions de tonnes. Et bon, si on évolue vers une isolation améliorée, hein, encore 2 millions de tonnes. Voilà, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a des quantités absolument astronomiques d'économies qui sont à faire à la portée de chacun d'entre nous, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Pour généraliser, c'est ce qu'on appelle un peu le scénario négawatt, hein, c'est-à-dire les watts négatifs, hein, plutôt que de chercher des solutions très extérieures, de chercher un secours providentiel. Le négawatt pointe le fait que bon, si on fait rien, hein, on a des tendances, on en est aujourd'hui à certaines valeurs de consommation, on prolonge ça dans le temps, ben, ça monte, ça monte, ça monte, quelle que soit la valeur considérée, hein, du renouvelable, de l'uranium ou du pétrole. Par contre, si on développe des comportements plus sobres, si on joue, hein, si les industriels jouent sur une des offres attractives, notamment les fameux crédits d'impôt, les fameux bonus écologiques sur les voitures, ainsi de suite, hein, les fameuses étiquettes là qu'on verra tout à l'heure avec le classement en consommation énergétique des différents produits électroménagers. Si les pouvoirs politiques jouent hein, sur une modération de la demande, on peut arriver hein, à une inversion très significative de la tendance à la consommation. Et vous voyez que la part du pétrole, hein, ici un peu en violet, hein, arriverait à être significativement réduite. Alors concrètement, hein, parce que là je suis resté très général, concrètement il se passe quand même des choses, hein, au niveau des normes, au niveau des politiques. On a un ministère du développement durable en France qui existe. Le fameux Grenelle de l'environnement qui vient d'être mis en place, qui propose des réductions, qui propose une politique de travaux, notamment dans le bâtiment, dans l'isolation. On a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur laquelle vous trouverez tout un tas d'informations, que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour la vie au quotidien, que ce soit pour les investissements. Il y a toute une quantité d'informations avec une campagne actuelle qui montre bien la tendance. Faisons vite, ça chauffe. Ça chauffe, oui, en termes de réchauffement climatique. Des aides de l'État. Des aides de l'État, alors des crédits d'impôt pour les particuliers. J'espère que vous ne payez pas trop d'impôts, je ne pense pas, hein, étant encore scolarisé. Mais un crédit d'impôt, vous pouvez en parler à vos parents, hein, c'est simplement une remise sur les impôts. Et si vous ne payez pas d'impôts, ben c'est l'État qui vous donne de l'argent, en fait, par rapport à différents investissements dans les énergies renouvelables, dans les économies d'énergie. Donc ça, c'est très concret, hein, l'État engage de l'argent. Ça montre aussi la prise de conscience qui a lieu au niveau des pouvoirs publics, des taux d'amortissement exceptionnels pour les entreprises, et puis un ensemble de mesures conjointes autant pour les particuliers que pour les entreprises. Voilà, ça c'était sur les crédits d'impôt, on ne peut peut-être pas trop s'étaler là-dessus, hein, mais c'est assez significatif. Un poêle à bois écologique peut vous être remboursé à hauteur de 50% par l'État. Ça fait plaisir, hein, ça rend des produits relativement exotiques, un peu de luxe, à la portée d'une bonne partie de la population. Hein, les bonus, malus écologiques vont dans ce sens-là. Si vous achetez une voiture écologique, bon, vous savez, la plupart des voitures, c'est 700 euros de remise. Ça peut aller à beaucoup plus pour celles qui sont hybrides. Ainsi de suite. Hein, les malus vont dans ce sens-là. Là, c'est une pénalité. Il y a des logos, il y a beaucoup de logos, hein, j'aurais pu vous en trouver tout un tas. Des logos officiels, il y en a moins, hein, qui vont vous spécifier à quel type de produit vous avez affaire. NF, donc c'est la norme française environnement, donc des produits qui sont garantis basse consommation, mais aussi au sens large, hein, qui lors de leur fabrication n'ont généré que très peu de rejets de toxiques dans l'environnement, hein, différents types de recyclage, ménager, emballage. La norme, hein, certains nombres d'entre vous sont appelés à être un peu, peut-être, en tout cas je vous le souhaite, des futurs entrepreneurs, la norme AFAQ, qualité ISO 14001, qui vient de se mettre en place très récemment, qui certifie les entreprises qui sont responsables. Et pour vous montrer que c'est pas, ça ne veut pas dire, hein, faire ceinture, se priver, s'imposer des contraintes artificielles, s'imposer des surcoûts de production, de création, etc. Et un petit exemple tout simple que j'aime bien, qui est assez récent, c'est l'exemple de l'entreprise Cineo qui a été créée par Olivier de Surmont, qui était un jeune homme, voilà, d'une trentaine d'années, de la région de Lille. Il a décidé de laver des voitures de manière écologique, sans eau. Et ça paraissait un peu fou au départ, et puis finalement il a bien réussi, puisque il a, depuis sa création, économisé 20 millions de litres d'eau, lui tout seul, avec ses entreprises. Il génère un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros en 2007. Il a réussi à créer 30 établissements en France. Il a 400 demandes de franchise. Et il est installé aux USA, et 20 établissements à l'étranger en général. Il a refusé une licence aux Chinois, hein, puisque lui, son projet est basé sur trois mots-clés: innovation, environnement et social. Innovation, donc des produits d'avant-garde. Il a par exemple été voir un petit laboratoire des Vosges pour travailler sur des huiles essentielles, des huiles de plantes capables de dissoudre toutes les graisses. Et donc, ils se contentent de laver les voitures avec seulement 4 litres d'eau et ces fameuses huiles hein, qui dégraissent tout et qui sont très efficaces. Donc, une dimension environnementale, mais aussi sociale, hein, puisqu'il fait travailler principalement des gens en difficulté sociale, mais aussi en handicap physique. Et les Chinois ne voulaient pas reconnaître la clause sociale, donc ils leur ont refusé, l'accord. Voilà, pour vous dire que c'est possible en partant de rien, sans argent, avec juste quelques bonnes idées. Hein, il y a des choses qui se passent. L'écologique est porteur. L'écologique est porteur d'autant plus hein, que c'est une nouvelle tendance. Hein. On a vu que le système industriel traditionnel est un peu sclérosé. On en voit les limites avec la mondialisation aussi, hein, les emplois qui partent à l'étranger, etc., etc., des localisations. Là, le durable, le renouvelable, c'est aussi une garantie hein, de se rapprocher un peu plus des terroirs, hein, minimiser les transports, minimiser les déplacements, que ce soit des personnes ou que ce soit des biens, des marchandises. C'est peut-être aussi hein, garder des emplois sur place. Et donc, c'est source, hein, ça peut être source d'emplois, source de revenus, notamment par le fait que, en fait, il y a comme des réservoirs, hein, de capital hein, qui ne sont pas exploités, comme la gestion des déchets, hein, par exemple, ou le recyclage du carbone. Les entreprises qui se sont lancées suffisamment tôt là-dedans ont d'excellents résultats aujourd'hui, puisqu'elles ont été les premières à se mettre sur un créneau qui, en fait, devient porteur. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite pub. Hein. J'ai pris beaucoup d'informations et je sais que vous avez un peu des travaux à faire. Il y a ce petit atlas environnement du monde diplomatique qui est accessible en librairie et sur Internet, dans lequel vous trouverez beaucoup d'informations sur l'ensemble de ces problématiques-là à l'échelle de la planète Terre. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai trop tenu mon temps, mais je vais m'arrêter là. Ça nous laissera du temps pour les questions. Hein. En conclusion, je voudrais juste dire que mon idée, c'était de vous montrer que il n'y a pas un effet de mode, hein, il n'y a pas des opportunités lointaines, inaccessibles. On en est vraiment arrivé à une situation de réalité et tous les facteurs, tous les indicateurs convergent hein, pour nous dire que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de se lancer, hein, au sens très large, hein, pour un développement durable, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, hein, parce qu'on arrive un peu à la faillite d'un système qui est en déclin, hein, qui a montré les preuves de son inefficacité, de ses limites, que ce soit à générer des richesses pour l'ensemble de l'humanité, mais ça, il ne faut pas rêver, hein, on restera encore longtemps dans une société profondément inégalitaire, mais son incapacité à s'arrêter, à trouver ses propres limites, hein, puisque c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. On voit bien que maintenant, plus de pétrole, trop de CO2, hein, plus de crédit, il va falloir inventer. Il se trouve que, c'est peut-être une chance, il se trouve que hein, tous les secteurs du recyclage, du renouvelable, du durable sont des secteurs à prendre. On est en fait sur des terres économiques relativement vierges et il vous appartient à vous, hein, futurs jeunes entrepreneurs, mais aussi en tant que simple employé, hein, de contribuer à diffuser la bonne parole auprès de vos patrons et d'agir au quotidien. Voilà, c'était mon idée un peu forte. Hein, c'est vraiment, à mon avis, le moment. Hein, il y a longtemps que j'observe cette question-là. On ne m'a jamais semblé que ce soit aussi près que depuis ces quelques derniers mois. Voilà, je vous remercie. Donc on va prendre le temps des questions. Alors je sais que vous avez des profils, des parcours très différents. N'hésitez pas, hein, quelles que soient vos questions, n'hésitez pas, je répondrai, si je peux répondre, hein, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas, ne vous gênez absolument pas. Merci en tout cas de votre attention.